Bienvenue dans Courant Libre, le podcast qui part à la rencontre de celles et ceux qui ont décidé de mettre un peu plus de liberté dans leur vie. Que ce soit avec le voyage ou tout simplement comme style de vie, je vous embarque avec moi pour découvrir des personnalités intéressantes, attachantes, mais surtout inspirantes. Et pour ce 10e épisode, je vous propose de découvrir l'aventure incroyable qu'a vécu Florian. Il est parti de Paris jusqu'à Téhéran, non pas en avion, en train ou en voiture, mais à vélo. Un parcours de 7500 km pendant plus de 8 mois avec un ami. Vous verrez comment il a eu envie de ce voyage, comment il s'est préparé, ainsi que le matériel avec lequel il est parti. Nous passerons en revue les différents pays qu'il a traversés et vous verrez qu'il y a eu quand même pas mal de petites galères. Nous aborderons sa vie après un voyage aussi intense, ainsi que son activité de youtubeur qui a commencé lors de son voyage à vélo. Bonne écoute sur le podcast de Courant Libre. Salut Florian, merci d'être présent sur ce podcast. Je suis très content de te recevoir parce que je suis ton évolution en fait depuis quelques temps puisque je t'ai découvert avec Enzo que j'ai interviewé il y a déjà quelques mois, il y a pas mal de mois et du coup je me suis intéressé à ton parcours. Mais avant d'en parler et avant de parler des différentes épopées, j'ai envie de dire que tu as parcouru, que tu as vécu et que tu vas nous partager, est-ce que tu peux te présenter pour les personnes qui ne te connaissent pas?
Ça marche. Bah, merci déjà Bastien de m'accueillir sur ton média. Quant à ma présentation, je m'appelle Florian et de par formation, voilà, je suis un biologiste, mais il y a 3 ans, j'ai décidé de tout quitter. Donc, j'ai quitté mon taf, mon appart, tout pour partir voyager. Et finalement, un voyage qui devait durer une année se transforme en un voyage peut-être à vie, je ne sais pas, mais dans tous les cas, ça fait 3 ans que je voyage maintenant et que je partage du coup sur YouTube une partie de mes aventures.
D'accord. Alors moi, ce que je veux savoir, c'est, tu dis, tu avais une formation de biologiste et il y a 3 ans, tu as tout quitté. Pourquoi ? Qu'est-ce qui t'a pris d'un seul coup de te dire, bah, il faut que je me tire de là, il faut que je voyage, il faut que je parte ?
Alors en fait, j'approchais les 30 ans et ça faisait quand même un petit paquet d'années que l'idée de voyager traînait dans ma tête. Et je me disais, mais en fait, si je pars pas maintenant, je le ferai jamais en fait. Parce que là, je commençais à être... Dans mon petit train-train, dans ma vie, je vivais avec ma copine, on avait l'appart, le petit chat, le boulot qui va bien, et je m'apprêtais de signer un CDI en fait. C'est ce moment-là qui a fait le déclic dans ma tête. J'avais l'impression que je signais la fin de ma vie, tu vois, alors qu'en fait, bah, même pas, parce que même quand tu finis un CDI, tu peux toujours quitter ton taf et partir. Mais pour moi, je le voyais comme la fin de mes choix.
Et du coup, t'avais jamais voyagé auparavant ou t'avais déjà voyagé et puis là, ça a été vraiment le moment, le déclic où tu t'es dit, faut que j'aille.
En fait, j'avais jamais voyagé. Hein. J'étais parti quelques jours à Londres, quelques jours à Amsterdam et voilà, un petit peu comme tout le monde, des petits trucs à droite à gauche, mais jamais de voyage très loin et très longtemps.
D'accord. Et alors, tu t'es dit, je vais voyager, mais pas comme tout le monde, parce que c'est directement à ce moment-là que tu t'es dit que tu allais prendre un vélo pour partir direction Téhéran, ou c'était autre chose à la base que tu voulais faire?
Alors en fait, la question de comment voyager s'est posée assez vite, et je sais pas, je me visualisais pas trop dans un voyage en backpack. J'avais envie de voyager différemment, donc j'ai proposé à mon pote Stéphane, mon pote d'enfance, s'il voulait partir avec moi à vélo. En fait, j'ai eu l'idée de voyager à vélo parce que je trouvais que c'était intéressant d'un point de vue aventure, d'un point de vue économique, écologique. Il y avait pas mal d'avantages en fait qui se cumulaient dans le voyage à vélo. Et mon pote il m'a dit oui. Je lui dis bah où est-ce qu'on va ? Et on s'est dit on va aller vers l'Asie. En fait, au début, on voulait aller vers la Chine ou le Japon. En fait, on n'avait pas vraiment de parcours bien déterminé, mais on voulait juste vivre l'aventure sans vraiment se prendre la tête. Alors finalement, c'est en Iran qu'on a arrêté notre voyage, mais on aurait pu s'arrêter avant comme après, ça nous aurait été égal, on voulait juste vivre un truc fort.
D'accord. Et pourquoi le vélo et pourquoi pas, je sais pas, des rollers ou du stop ou, tu vois ce que je veux dire?
Ouais.
Pourquoi un vélo?
Bah, en fait, c'est vrai que même le roller, le stop, ça pourrait être sympa, hein. Je t'avoue, j'y avais même pas pensé pour te dire. Le vélo parce que Franchement, mec, je pourrais même pas te dire. Bah, c'est l'aspect. En fait, tu voyages sans émanation de carbone. Bon, tu vas me dire, c'est pareil pour le roller. Mais le roller, tu peux pas transporter beaucoup de matos. Tu as la contrainte du backpack. Et je pense que tu vas pas aller jusqu'en Iran en roller. Tu vas te fatiguer. Et, avec le vélo, tu peux aller partout. Voilà, c'est le mode de transport qui cumulait, selon moi, le plus d'avantages. Après, peut-être que certaines personnes auraient une vision différente. Pour moi, c'était le vélo.
D'accord. Et donc tu me dis t'es parti avec ton pote d'enfance et c'est à ce moment-là que vous avez, enfin t'as créé une chaîne, vous avez tous les deux créé une chaîne YouTube pour relater cette expérience qui quand même, on va voir, a duré quand même pas mal de mois. Et c'était dès le départ, tu t'es dit il faut partager ça ou c'est quelque chose qui est venu après?
En fait, ça fait très longtemps que je fais de la vidéo et que j'aime bien ça. Je faisais des time-lapse. Je sais pas si tu vois ce que c'est. J'aime beaucoup faire des time-lapse. J'ai des centaines de gigas de time-lapse. Donc pendant très longtemps, c'était ça mon truc. Et puis j'ai fait d'autres petites vidéos à la con, hein, mais j'aime bien la vidéo. Mais je me suis jamais mis en scène face à une caméra et c'était un exercice quand même qui est très compliqué quand on l'a jamais fait, surtout pour moi qui est de nature introvertie. Donc j'ai beaucoup de mal à faire ma première vidéo. Donc l'idée c'était de partager le voyage avec nos proches avant tout. Donc on a fait ça, on a fait les premières vidéos. Puis après Enzo du coup nous a donné un petit coup de pouce sur la chaîne et ça a lancé la chaîne comme ça le départ. Et puis après on s'est dit bon bah maintenant on a une petite communauté, bah, on partage aussi avec eux, pourquoi pas. Puis ça a commencé comme ça en fait.
Alors du coup c'est intéressant ce que tu dis puisque tu dis qu'au final t'avais pas beaucoup voyagé auparavant, que c'était un peu une première pour toi en plus de ça à vélo et en fait vous vous êtes rajouté une contrainte supplémentaire si je puis dire, c'est d'y associer aussi de la vidéo sous forme de reportage, un peu vlog etc. pour suivre votre aventure. Alors ce qui m'intéresse c'est de savoir comment vous avez préparé un peu ce voyage, c'est-à-dire que ok vous partez à vélo mais tu t'as peut-être choisi un vélo en particulier, du matériel en particulier pour ce voyage-là?
Ouais, alors un voyage à vélo à préparer, c'est pas comme un voyage en backpack, hein. C'est vraiment une histoire le truc. Parce que niveau matériel, en fait, quand tu pars, il faut que ton matos soit déjà au top. Parce que tu vas pas trouver, c'est compliqué de trouver sur la route des trucs. Donc moi, je t'avoue, je m'y suis pris très longtemps à l'avance, on va dire 7-8 mois avant de partir. Mon pote Stéphane, lui, il comptait un petit peu sur moi, mais c'est pas négatif. C'est juste que lui, c'est sa façon d'être, qu'il a un petit peu, il aime bien tout organiser au dernier moment, mais bon, ça marche aussi, c'est juste une autre stratégie. Voilà, c'est un petit peu moi qui ai organisé le truc. Je me suis renseigné sur pas mal de sujets, quel vélo il fallait, quelle sacoche, quel équipement pour camper. Sur YouTube, hein, il y a quand même pas mal de choses. Après, quel itinéraire prendre, comment s'organiser le soir, comment avoir des petites notions de survie aussi, parce qu'en fait, le voyage à vélo rime beaucoup avec bivouac, donc camping sauvage. Donc c'est bien aussi de savoir se débrouiller tout seul dans la nature. Donc c'était
Et le camping sauvage, t'en avais jamais fait?
un petit peu, vraiment très très peu. Et
Ok.
du coup, je me suis. C'est pour ça aussi que j'ai créé une formation pour toutes les personnes qui voulaient partir voyager à vélo, parce que je me suis rendu compte que c'était quand même c'était beaucoup de travail. Donc j'ai mâché le travail et j'ai créé la formation que moi j'aurais bien aimé avoir avant de me lancer. Ça m'aurait évité de perdre beaucoup de temps là-dedans, quoi.
Très bien. Et du coup, par rapport à ce voyage, vous êtes parti. T'avais quand même regardé, peut-être, je sais pas, des pistes cyclables sur lesquelles vous pouviez déjà vous déplacer au début du voyage. Parce que j'imagine que plus tu t'éloignes de l'Europe, on va dire occidentale, et plus c'est un peu des routes. Enfin, si, des fois c'est pas trop des routes, mais en gros c'est un peu plus délicat de trouver des moyens de transport, enfin des pistes quoi. Ou alors t'es parti direct sur la route avec ton pote et puis direction l'Est.
Alors, en fait, on a étudié les différents itinéraires possibles. Par exemple, comment aller jusqu'en Asie? Est-ce qu'on passe par la Turquie ou est-ce qu'on passe plutôt par le nord de la mer Noire, donc plutôt l'Ukraine, puis après la Russie? Et en fait, on a étudié pour chaque pays la faisabilité. Est-ce que c'est compliqué de rentrer ou non dans ce pays-là? Le plus simple, c'était de traverser l'Europe direction le sud, direction la Turquie. Puis, bon, après, les mêmes problématiques se posaient hein, pour la suite, hein, Kazakhstan ou Iran et compagnie. Bon, sinon, par rapport à l'Europe, il y a des pistes qui existent, ça s'appelle les Eurovélos, qui traversent l'Europe dans tous les sens. Et on peut traverser l'Europe entière sur une piste cyclable. Mais nous, on l'a pas prise. En fait, on a eu du mal à partir de. On voulait en prendre une en Italie, ça s'appelle Ciclovia del Po. Et on n'arrivait pas à la trouver. À chaque fois qu'on était dessus, au bout de quelques kilomètres, on n'était plus dessus sans savoir pourquoi. Et au bout de 2, 3 jours, on s'est dit, vas-y, on s'en fout des pistes cyclables, on pointe vers Istanbul et point. Donc voilà, après, on a traversé toutes les capitales dans les Balkans. L'idée, c'était aussi de passer par des grandes villes pour se ravitailler et puis se reposer.
D'accord. On va y revenir sur les différentes étapes, mais moi je reste un petit peu focus sur au niveau matériel, les préparations, tout ça, parce que je suis en train un petit peu de me mettre dans ta tête à ce moment-là. Tu dis que c'est pas pareil qu'un backpack traditionnel parce que tu dois gérer ton équipement, avoir le top, puisque tu dis, et c'est juste quand il va t'arriver une emmerde à l'est et qu'il n'y a pas du tout d'équivalence pour soit te réparer, soit changer de matériel, etc. Il faut que tu sois préparé en amont. Mais du coup, au niveau de cet équipement, vu que tu faisais de la vidéo, toi, t'as pris quoi pour faire de la vidéo? Qu'est-ce que t'avais comme backpack ou comme sacoche ou qu'est-ce que t'avais mis dedans? Enfin, au niveau du matériel, en gros, il y avait quoi dedans?
Alors déjà, on a pris comme vélo un vélo de marque allemande, Fahrrad Manufacture TX400. C'est vraiment une très très bonne référence pour partir loin. Donc on n'a pas hésité sur ça, on a mis le budget sur ça. Sur les sacoches, on a pris des sacoches Ortlieb qui sont très résistantes au choc et puis à l'eau en fait. Donc on avait deux sacoches à l'avant, deux sacoches à l'arrière et puis une grosse sacoche sur les sacoches arrière. Donc ça fait comme pas mal de volume. Et puis après, on essaie de segmenter les sacoches pour qu'il y ait une sacoche correspond à un usage. Donc par exemple, une sacoche correspond à l'équipement de bivouac, une sacoche correspond à la cuisine. Donc il y aurait la popote, la bouffe et tout le reste. Et une sacoche avec tous les équipements qu'il faut dégainer d'urgence, par exemple quand il pleut. Par exemple, quand on a besoin d'un couteau ou d'une lampe, voilà, un truc, une pochette, un petit technique, une pochette avec toute l'électronique et une avec tous les vêtements. Voilà, c'était une sorte de petit appartement avec chaque poche correspond à une salle en fait. Et sinon, pour filmer, j'ai filmé principalement avec une caméra Canon, un G7X Mark II que j'ai cassé 2 fois. Et maintenant, je filme toutes mes vidéos avec mon téléphone et je me rends compte que ça suffit largement en fait.
Et c'est quoi comme téléphone que t'as?
C'est un Huawei P30 Pro.
Ok. Donc en gros, tout ce matériel-là sur ton vélo, dans les sacoches et tout, ça représente quel poids à peu près que tu trimbales avec toi quand tu bouges?
Alors le vélo à lui-même, il fait 15 kilos. Et l'équipement, il me semble qu'on avait dans les 15 aussi, ouais, dans les 15 ou 20 kilos. 20 kilos en comptant l'eau, parce qu'on se trimballe aussi avec pas mal d'eau, parce qu'on n'en trouve pas partout. Donc on avait au moins 2 ou 3 litres chacun, en fait.
Ok, et donc du coup ça représente à peu près une cinquantaine de kilos plus vous. Et tu disais que c'est une marque que tu as pris de vélo qui était fiable pour voyager longtemps. Pourquoi en fait? Qu'est-ce qui fait que ces vélos-là ils sont meilleurs que les autres? Qu'est-ce qui fait que ils sont faits pour durer, enfin pour aller loin?
En fait, quand tu prends un vélo de voyage, tu dois prendre un cadre, soit aluminium, soit acier. L'avantage de l'aluminium, c'est qu'il est léger, mais en même temps, il est moins fiable dans le temps que l'acier. L'acier, il va résister plus dans le temps, il va résister plus à la corrosion. Et aussi, le truc principal, c'est si tu casses ton cadre quelque part, tu vas trouver plus difficilement quelqu'un qui va souder de l'alu que de l'acier. Du coup, c'est mieux quand tu pars loin de voyager avec un vélo en acier. Si je voyagerais en France, par exemple, j'aurais préféré un vélo en alu parce que bah, si je le pète, c'est pas grave, je suis en France. Et puis, c'est plus léger. Ensuite, il y a plusieurs trucs. Il y a la taille des roues, 26 pouces ou 29 pouces. Donc, 26 pouces, c'est plus. Pour le tout-terrain, c'est adapté pour le tout-terrain comme pour la route. Et plus tu as un diamètre important, plus tu es adapté sur la route, tu vas être moins stable sur les petits chemins, Mais par contre, tu vas avoir une plus grosse vélocité, donc pour aller plus vite sur les routes. Donc le TX400 de la marque Farah Manufacture, c'est un petit peu, voilà, il est en acier. Il a ses roues 26 pouces. Et en plus, il a une dynamo dans la roue avant. Alors ça, c'est vraiment un petit confort qu'on a parce qu'on pouvait recharger. À la base, cette dynamo, elle est faite pour l'éclairage, mais nous, on avait rajouté un petit boîtier qui permettait de charger une batterie en USB. Donc, chaque coup de pédale qu'on mettait, on gagnait de l'électricité, en fait. Et donc, ça, c'est important aussi dans une optique d'autonomie. Et puis, bah, on paye la marque, hein, forcément. Je suis sûr qu'il y a d'autres vélos qui sont équivalents au TX400, mais qu'on entend peu parler. Mais le Farah Manufacture TX400, c'est un peu le modèle sûr. Voilà, t'es sûr quand tu penses ça que t'auras pas de pépins et on voulait pas prendre de risques sur ça, on a pris le top pour être tranquille.
D'accord. Bah au moins c'est clair. Au moins c'est parce que moi je me disais bon tu vois il y en a ça se trouve ils vont vouloir aller à Decathlon, ils vont prendre le premier Between qu'ils vont voir et ils vont se dire c'est bon je peux aller jusqu'à Téhéran avec. Donc c'était intéressant aussi de voir pourquoi un vélo était plus adapté à ce genre de d'épopée si je puis dire. Parce que c'est vrai que là t'as passé 8 mois. Enfin vous avez passé 8 mois sur les routes. C'est pas au bout du je sais pas au bout de 300 km que les pignons ils vont commencer à se péter dans tous les sens, que la chaîne avait éclaté en deux. Enfin là, tu te dis, mince, si j'avais mis un peu plus de budget, peut-être que j'en serais pas là, je serais un peu plus tranquille. En plus de ça, c'est intéressant ce que tu dis, le côté acier fait que bah déjà, ouais, tu as quelque chose qui est solide, donc ça explique aussi les 15 kilos. Mais derrière, tu as du super matos. Donc pour les personnes que ça intéresse, de toute façon, dans tous les cas, je mettrai dans la description du podcast les liens qui amènent vers les différents produits que tu cites. Donc, ouais, et par rapport à tout ce matériel, le budget, est-ce qu'il était défini à l'avance, avec à l'avance le budget matos plus le budget durant le voyage, ou est-ce que c'est un budget qui s'est construit au fur et à mesure du temps?
Alors en fait, on partait avec un budget limité. On avait des budgets différents, Stéphane et moi. Lui, il avait 10 000 euros de côté. Moi, j'avais 15 000 euros. Et en fait, on avait repéré qu'en gros, un tour du monde d'un an coûte entre 10 et 15 000 euros. Mais niveau équipement, nous, voilà, c'est clair qu'il fallait sortir les billets là. Niveau équipement, on en a eu pour 5 000 balles. Enfin. Si je compte tout, hein, je compte l'ordinateur, les caméras, tout ça, hein, vraiment tout ce que je possède sur mon vélo, même mon téléphone, il y en a pour 5 000 euros. Stéphane, du coup, un peu moins parce que forcément, on n'a pas besoin de trimballer avec qu'on achète tous les deux une caméra, etc. Donc, moi, j'avais investi un peu plus et bon, je trouvais ça aussi légitime, sachant qu'il partait avec un plus petit budget que nous, plus petit budget que moi. Ensuite, sur les routes, on était en mode crevard. Vraiment. On s'est dit, on a compris vite que plus on dépensait notre argent doucement et plus le voyage allait durer longtemps. Et du coup, c'était un peu notre sablier, quoi, notre porte-monnaie. Alors du coup, on allait au début en Europe, ça coûte très cher en Europe de l'Ouest. Du coup, on allait bouffer chez Lidl et on faisait du camping sauvage. Après, petit à petit, dès qu'on arrivait au niveau des Balkans, là, on se prenait des petits Airbnb, on se reposait quelques semaines, on allait au restaurant. Et puis, en gros, on s'offrait de plus en plus de confort dès qu'on s'éloignait de l'Europe. Hein, ça fait comme un gradient de coût de vie. Tu peux tracer un trait entre la France et la Thaïlande. Ça fait un gradient de prix qui descend, mais très fort en fait. Dès que tu quittes l'Italie, ça descend très fort les prix. Donc après, on prenait plus notre temps. On prenait plus notre temps et puis on prenait plus notre temps pour visiter, pour passer du temps avec les gens, tout ça.
Parce que là, en gros, ce que je veux savoir, c'est combien de pays vous avez traversé ju jusqu'à Téhéran, en fait? Combien de pays?
On en a traversé 12. Et excuse-moi, en fait, j'ai oublié de répondre complètement à ta question pour le budget total. C'était
Vas-y, vas-y.
10 000 euros.
10 000 euros.
5 000 euros pour le matos, 5 000 euros pour tout le voyage.
Ok. De toute façon, j'allais y revenir un petit peu quand on allait parler nourriture et tout, mais là, je pense avoir compris quand t'as dit que t'étais en mode crevard que ça allait pas coûter très très cher. Mais en gros, ouais, 12 pays, et tu dis en fin de compte que plus tu vas vers ta destination finale et plus le budget, en fin de compte, il est en train de descendre de plus en plus au niveau des prix et au niveau logement, puisque j'imagine que si tu prends un Airbnb, c'est que tu t'es dit que le prix, il en valait vachement la chandelle. Et après, si tu prends des restaurants, c'est que comparé au Lidl au départ, bah, il y a quand même une différence. Donc, comment toi, tu l'as ressenti? C'est après l'Italie? Parce que c'est vrai qu'en général, même dans différents podcasts, moi, on me disait à chaque fois, à partir de la Turquie, c'est open bar, quoi.
Ouais, on va dire qu'il y a un premier cap après l'Italie, dès que tu arrives dans les Balkans, et le deuxième cap dès que tu arrives en Turquie, ouais, clairement.
Dès que tu arrives, ouais, d'accord.
Mais en gros, bouffer un sandwich chez Lidl en France, c'est plus cher qu'aller au restaurant en Turquie.
Voilà, tout est dit. Non, mais c'est intéressant parce qu'au moins, par rapport au budget, c'est sûr que si c'est du coup pour ça que vous êtes dépêché entre guillemets de rejoindre rapidement ces pays-là pour le moins dépenser possible et plus profiter après.
En fait, on n'a vraiment pas trop réfléchi à ça. On s'est mis aucune pression niveau rapidité dans le voyage. C'est juste que après, on a vu qu'on pouvait prendre plus de temps. C'est juste qu'on a compris ça. Et ça, on ne savait pas, en fait. On ne connaissait pas les coûts de la vie. On ne savait pas au début qu'en Turquie, ça allait être beaucoup moins cher et tout ça. En plus, on est arrivé là-bas pendant la crise. Il y a un an, il y a 2 ans. Du coup, c'est triste à dire, mais pour nous, ça nous a permis d'alléger quand même pas mal le budget. L'IRA a perdu 20%, tu vois. Donc, dès qu'on on avait 20% de plus de pouvoir d'achat, dès qu'on achetait un truc, quoi.
D'accord. Et pour en revenir au début du voyage, donc, comment tes parents, enfin ta famille, ils ont réagi quand tu leur as annoncé « Bon, je pars à durée indéterminée, direction l'Est, à vélo, avec un pote, alors que tu n'avais jamais voyagé plus que des micro-séjours, on va dire. » Comment ton entourage, il a pris cette information-là?
En fait, mes parents, ils m'ont jamais bloqué dans mes projets. J'aurais pu leur dire mon rêve, c'est d'être éboueur. Ils m'auraient encouragé à le faire. Et du coup, ils ont été hyper compréhensifs dès que je leur ai dit, même si ils en doutaient hein, quand même. Hein. C'est quand j'ai quitté mon boulot qu'ils se sont dit, bon là, ça commence à être sérieux son truc. Puis après, quand j'ai acheté mon vélo, ils ont compris. Et ils étaient inquiets, hein, je t'avoue qu'ils étaient inquiets. Après, maintenant, ils sont fiers de moi, en fait, même si ils veulent pas me le dire à 100%, parce que je pense qu'ils ont quand même eu peur pour moi, qu'il m'arrive quelque chose sur le... Donc, ils ont pas envie de m'encourager non plus à reproduire ce genre d'expérience.
On y reviendra, mais en fait, c'est intéressant parce que du coup, t'as pas eu de frein avant ton départ avec... des fois, dans les entourages, il y a des fois quand on leur annonce qu'on va aller en Iran, qu'on va aller dans des pays de l'Est qui ont parfois mauvaise réputation, c'est sûr que ça génère beaucoup d'anxiété et d'inquiétude vis-à-vis de la famille proche et ça peut être des fois des freins. Et toi, au contraire, t'as été plutôt serein à ce niveau-là.
Ouais, après, j'étais serein, mais ça restait quand même un frein. Tes proches, tes amis, ta famille, ils vont pas t'encourager à le faire. Hein. Ils vont quand je leur dis que je dois passer par l'Iran, mais personne ne m'encourage à faire ça. Et tout le monde me parle de guerre, de trucs de ouf et tout, sans savoir en fait ce qui se passe vraiment dans tous ces pays-là. Et donc, de toute façon, ma décision elle a été prise, hein, comme pour Stéphane, où il y avait aucun doute. Même si des fois ça fait baisser un petit peu le moral quand tu sens que tu sais pas, en fait, même toi t'es dans le flou, en fait, tu sais pas ce que tu vas voir, tu sais pas ce qui va se passer, tu sais pas si au bout de 2 semaines t'en auras marre, tu vas revenir, et puis il y a beaucoup de flou à gérer, plus ton entourage qui t'encourage, mais qu'en même temps ils veulent t'avertir sur des trucs qu'ils ne savent pas, et du coup ça c'est compliqué, hein, c'est des sentiments compliqués.
Ok. Pour en revenir au démarrage de cette aventure, comment ça s'est passé sur les routes les premiers jours, les premières semaines? Puisque, en gros, est-ce que toi, tu t'étais entraîné à vélo avant ou est-ce que vous êtes parti et puis tu t'es dit, mince, là, il y a des muscles que je suis en train de découvrir, il y a des courbatures que j'avais jamais eues avant. Comment tu as vécu ça?
En fait, avec Stéphane, du coup, on est tous les deux un petit peu sportifs, même si, c'est à petite échelle, au niveau tranquille, quoi. Les premiers jours étaient quand même très difficiles, hein. Surtout la première journée, puisqu'on avait comme mission de s'éloigner de Paris. Donc, on est allé jusqu'à la forêt de Fontainebleau. On a commencé à Argenteuil, donc ça fait comme une grosse trotte. Et on était rincés. Et puis, on se rendait compte que quand on accumulait plusieurs jours de vélo comme ça, bah la fatigue musculaire, elle s'accumulait. Et en fait, il nous fallait très vite, les premiers jours, faire des pauses. Donc, on faisait des pauses longues parce que on était quand même en France et on avait des proches sur la route. Donc, on s'arrêtait 3-4 jours chez un tel, 3-4 jours. On a mis un petit peu de temps à partir de la France parce qu'on faisait beaucoup de pauses chez les amis. Donc, on s'est arrêté comme ça, on s'est reposé. Mais physiquement, je t'avoue, c'était très dur au début. Mais en même temps, on se mettait pas des pressions de fou. C'est-à-dire que si on voyait que on fatiguait trop, qu'on était fatigué, on s'arrêtait, hop, on mettait la tente, quoi.
Et vous faisiez à peu près combien de kilomètres par jour? Enfin, je sais pas si vous rouliez tous les jours, mais quand vous rouliez, la moyenne, c'était combien à peu près?
La moyenne, ça doit être dans les 70. On faisait entre 50 et 100 km par jour, sachant qu'on faisait 100, on était à la fin de la journée, on était épuisé. Hein.
Vous partiez dès le matin jusqu'à... Enfin, combien d'heures par jour ça représentait tout ça?
Ah, c'est difficile à dire. Nous, on était très très peu organisés. Hein. C'est-à-dire que le soir, on pose les tentes, on mange, après, on passe des heures devant Netflix, on se couche tard, malgré le fait qu'on soit dans notre tente, et on se lève tard du coup. Du coup, on partait le matin vers 10-11 heures, hein, tranquille, et puis on pédalait 2 heures jusqu'à 13 heures. Après, on mangeait. En allant, on devait pédaler 4 heures par jour, à peu près. Des fois, ça pouvait être beaucoup plus. Hein, quand il y avait du dénivelé, on avait l'impression de ne pas avancer. Hein. On faisait des journées, on faisait 30 km. Pourtant, on avait l'impression d'avoir dépensé tellement d'énergie. Le dénivelé, c'est vraiment un truc qui nous freinait, qui nous butait au niveau de notre fatigue, quoi.
Et ce dénivelé-là, vous l'avez passé dans... Il y a des coins où ça a été plus dur que d'autres au niveau du vélo. Parce que j'imagine que vous passez dans des coins parfois qui sont, comme tu dis, avec du dénivelé. Il y a des moments où ça doit être un plat ou un faux plat pendant je sais pas combien de temps. Est-ce qu'il y a il y a des zones qui ont été plus compliquées que d'autres?
Ouais, alors c'est marrant parce qu'en fait, je me suis rendu compte d'un truc pendant ce voyage, c'est que les frontières qu'on a tracées entre les pays correspondent vraiment, pas tout le temps, mais souvent à des frontières géologiques. Et du coup, entre chaque pays, il se passe un truc. Soit il y a un fleuve, soit tu passes d'une plaine à une grosse montagne, soit t'as un dénivelé qui descend, mais il se passe quelque chose. Donc par exemple, entre la France et l'Italie, bah, tu avais le Jura puis les Alpes. Après, dès que tu sors de l'Italie, tu retrouves les Alpes en Slovénie. Donc là, c'est très très dur quand on arrive en Slovénie. Après, globalement, dans les Balkans, c'est du plat. Et puis, dès que tu t'approches de la Turquie, tu as des gros massifs montagneux. Donc voilà, on va dire en Slovénie, au début de la Turquie. Et puis pareil en Géorgie. Donc après la Turquie, pareil, c'est que de la montagne, la Géorgie. Donc il y a des endroits comme ça qui sont pas évidents.
Quelle a été l'étape où vous êtes resté le plus longtemps? Parce que en 8 mois, quand même 12 pays, ça fait quand même une sacrée moyenne par pays, mais il y a des endroits où vous êtes resté très peu. J'imagine qu'en France, vous n'êtes pas resté très très longtemps. Toute l'Europe de l'Ouest, moins de temps, j'imagine, qu'ailleurs. C'est quels sont les endroits où vous êtes resté le plus longtemps sur place?
À Istanbul, on est resté 3 mois.
Ah ouais, quand
Ouais.
même, d'accord. Donc en gros, vous connaissez bien Istanbul, quoi.
En fait, bah, on a adoré la ville, on était dans un bon cadre. En plus, alors je sais pas si tu connais l'application, comment ça s'appelle? Warm Shower. En fait, c'est l'équivalent de Woofing, mais pour la communauté des cyclotouristes. En fait, tu peux demander à des gens qui participent, tu peux être hébergé une ou deux nuits comme ça de passage. Et on s'est super bien entendu avec une femme qui nous a hébergés à Istanbul. Finalement, on est resté 3 mois chez elle, enfin 2 mois chez elle, et puis après un mois en Airbnb. Mais en fait, c'était un moment un peu crucial parce que avec Stéphane, on avait compris que maintenant le voyage, on le considérait plus comme un petit délire comme ça, passager d'un an. C'est-à-dire qu'on s'était, enfin, c'était quelque chose qui nous animait. C'était quelque chose qu'on pouvait plus abandonner. Moi, je me voyais plus, hein, après 3-4 mois de voyage, retourner en France et reprendre un boulot comme avant. Et du coup, il fallait qu'on gagne notre indépendance financière en ligne. Donc, on s'est arrêté à Istanbul et c'est à ce moment-là qu'on a commencé à se former sur tout un tas de sujets. On a acheté des formations en ligne sur plein de trucs. Puis on a essayé, tu vois, on a essayé plein de trucs. Et puis, petit à petit, après, ça a payé par la suite. Mais on a enclenché le processus à Istanbul dans tous les cas.
D'accord. Et après Istanbul, vous avez fait quoi, la Géorgie? Enfin, après la Turquie, pardon.
Oui, après la Turquie, on a fait la Géorgie, l'Azerbaïdjan et puis l'Iran.
Ok. Qu'est-ce qui s'est passé en Azerbaïdjan? Parce que moi, je sais, parce que j'ai regardé les vidéos. Mais en fait, voilà, parce que en fait, le voyage, quand on suit ton aventure sur la chaîne, parce que je vais quand même partager tes chaînes, etc., t'as l'impression que le voyage, il est assez linéaire, ça se passe plutôt bien, bon, il se passe deux, trois trucs, et puis d'un seul coup, il y a une espèce de blanc, un espèce de truc où on voit qu'il se passe quelque chose, et ça se passe en Azerbaïdjan. Est-ce que tu peux nous raconter un peu le délire là-bas?
En fait, il s'est passé pas mal de trucs. Alors, je ne sais pas de quelle anecdote tu parles, mais...
Alors, moi, déjà, ton rapport, déjà, quand vous arrivez dans le pays, comment ça se passe?
Ok. En fait, la communauté des cyclotouristes se suivent en général sur les réseaux sociaux, principalement sur Instagram. Et donc, quand tu pars en voyage à vélo, on suit à peu près tous le même itinéraire et on se tient au courant les uns des autres de quel endroit faut passer, quel endroit faut pas passer, etc. Et moi, je regardais, la plupart des gens passaient par l'Arménie. Et personne passait par l'Azerbaïdjan. Pourtant, c'était le truc le plus logique niveau itinéraire. Et du coup, avec Stéphane, on s'est dit, bon, bah, on va aller en Azerbaïdjan, on va découvrir un pays que personne a exploré avant nous. Et en fait,
Et
c'était
tu t'es
quoi?
pas dit, il y a un problème. Tu t'es pas
Bah,
dit, tiens, c'est bizarre, personne n'y va.
il n'y avait rien qui nous bloquait quand on faisait des recherches sur le web. Il n'y a rien qui disait que l'Azerbaïdjan, ça craignait ou quoi que ce soit. D'ailleurs, ça craint pas trop non plus, ça va. Mais on va dire ce qui s'est passé, c'est que premièrement, quand on arrive dans le pays, on a l'impression d'arriver dans un désert sale, où tu vois que des lignes électriques et puis des trains, des chemins des rails de train, quoi. Et puis, eh ben, on croise pas beaucoup de personnes. Et les seules personnes qu'on se met à rencontrer, ils développent une curiosité extrême pour ce qu'on est. D'habitude, les gens ils sont un petit peu curieux, souriants, conviviaux. Là, c'est de la curiosité bizarre. En fait, ils s'arrêtent de vivre et ils nous observent sans émettre la moindre expression faciale. Et c'était ça partout. Dès qu'on arrivait dans un village, les gens qui faisaient leur petite vie s'arrêtent de vivre et nous observent. Et nous, pendant longtemps, on comprenait pas. Même aujourd'hui, j'ai du mal à comprendre ce qui s'est passé dans ce pays-là. Mais j'ai l'impression qu'en fait, ils ont jamais vu de touristes de leur vie. Et ils savent même pas que c'est possible de voyager à vélo. Et en fait, tout ça leur paraît tellement inconnu et étrange que du coup, ils arrivent même pas à avoir une expression, que ce soit positif ou négatif, ils arrivent même pas à comprendre en fait ce qui se passe. Et du coup, on a eu très très peu d'échanges avec les Azéris parce que bah déjà aussi, ils parlent pas anglais. Leur deuxième langue là-bas, c'est le russe. Donc impossible de communiquer. Et puis même au niveau de l'expression. Le body language, comme on dit dans beaucoup de pays, comme dans les Balkans, c'était très facile d'utiliser le body language, même si on n'utilisait pas la même langue. Mais en Azerbaïdjan, c'était très compliqué. Voilà, il y a eu ça. D'autre part, l'Arménie et l'Azerbaïdjan se sont fait la guerre et sont en conflit pendant très longtemps, ce qui fait qu'on est passé aussi au début sur une zone qui était minée. Il y avait des panneaux partout qui nous signalaient des champs de mines. Du coup, on savait pas où mettre notre tente de camping. Et en fait, on la mettait là où il y avait des vaches, parce qu'on se disait, là où il y a des vaches, au moins le sol il a été piétiné et il n'y a plus de mine. Du coup, on mettait notre tente là. On a eu des problèmes aussi avec la police qui nous a réveillés en pleine nuit, parce que on a dormi sur un pipeline, au-dessus d'un pipeline de pétrole. Et puis nous, on faisait notre petit feu de camp, enfin notre petit popote, on se faisait à manger au-dessus d'un tunnel de pétrole. Voilà, c'était pas ouf niveau sécurité. Et puis aussi avec le drone, parce qu'en fait le drone là-bas c'est considéré comme une arme. Donc ils nous ont scellé notre drone à l'entrée de l'Azerbaïdjan. Ils ont failli nous le confisquer, finalement ils nous l'ont laissé. Et pour la petite anecdote, ça, je suis pas sûr de l'avoir raconté en vidéo, mais quand on a quitté l'Azerbaïdjan, on a eu des problèmes avec la douane qui nous mettait sur le côté et qui nous expliquait pas pourquoi. Avec mon pote, on a poireauté des heures sans savoir pourquoi. Finalement, ils ont appelé l'armée et ils nous ont demandé de vider toutes nos sacoches et de passer tout au rayon X. Et nous, on comprenait pas. Ils étaient là avec leur calache en train de nous demander de tout vider. Et au moment où j'ai ouvert le drone, bah là, ils étaient rassurés en fait parce que ils ont compris que c'était ça qu'ils cherchaient. Parce que sur le papier de douane, il y avait sûrement écrit qu'on était en possession d'une arme et pas qu'on était en possession d'un drone. Peut-être qu'ils savent même pas comment ça s'écrit. Mais pour eux, c'est une arme parce que c'est une arme d'espionnage. Et donc les militaires étaient là pour chercher une arme et ils ont trouvé notre drone. Donc, après ça, tout le monde était content quand qu'on a sorti drone, et puis voilà.
Mais en tout cas, dans les vidéos que j'ai pu voir sur l'Azerbaïdjan, comme tu dis, ce qui est assez, enfin, ce qui doit être difficile à vivre, cette espèce de truc, en fait, vous verrez, hein, pour ceux que ça intéresse, faut aller regarder, de toute façon, c'est hyper intéressant. En fait, vous faites rien de spécial et il y a des gens qui s'attroupent autour de vous pour vous regarder. Mais un petit peu comme tu regarderais la télé. Enfin, je sais pas comment expliquer, mais en fait, il y a une espèce de vide entre vous et eux parce que il y a même des passages où tu essayes de communiquer entre guillemets, d'essayer d'avoir un échange. Mais en face, t'as l'impression d'avoir une armée de zombies en fait qui te regardent. Et il se passe rien. Et tu te dis, et en fait, ça fait des séquences. Il y en a une qui est pas mal, là, où vous êtes chacun sur un banc, là, en face à face avec l'espèce de père de famille avec les gosses qui sont en train de vous regarder. J'ai vu la scène, j'ai dit, mais là, le malaise, il est absolu. C'est-à-dire qu'en fin de compte, même toi, tu le dis, au bout d'un moment, t'as même plus envie de faire un effort parce que tu sais qu'il va rien se passer, en fait.
C'est ça.
Et ça doit être assez surprenant à vivre, tu vois. Et c'est intéressant d'en parler parce que tu te dis, mais en fin de compte, dans la culture même occidentale et tout, il n'y a pas ça. Dans la culture asiatique, malgré leur pudeur, ça n'existe pas. Il y a quand même des sourires, il y a quand même un micro-échange. Il se passe quelque chose dans la culture en Amérique du Sud, c'est l'inverse. C'est tout le monde, enfin, c'est très accueillant, c'est très chaleureux, etc. Mais là, en fin de compte, t'arrives dans un espèce de no man's land, j'ai l'impression, puisque déjà au niveau de l'architecture, au niveau du décor, c'est, on va le dire clairement dans les vidéos, c'est dégueulasse. Franchement, c'est pas joli. En plus de ça, il y a des panneaux, c'est miné. Vous faites faire chier par les flics, la douane. Les gens sont pas forcément des plus agréables. En plus de ça, il y a aucun échange et vous êtes des bêtes de foire. T'as envie de dire combien de temps vous êtes resté là-bas?
Ah, on est passé vite, hein, on est resté 2 semaines.
Mais ça a dû être long déjà 2 semaines, non?
C'était très long.
Et après, tu t'es pas dit, on aurait peut-être dû passer par l'Arménie.
Si, si, clairement. Mais moi, après, c'est pas grave, on va pas regretter nos choix parce qu'on a quand même vécu des trucs, ça fait des trucs à raconter, voilà.
Ouais, bien sûr, c'est sûr que les séquences sont énormes. Et après l'Azerbaïdjan, bon, déjà au niveau du moral, vous étiez un peu plus en down, vous étiez un peu moins dedans.
Ouais.
Ça se voit dans les vidéos. Et comment ça se passe? Après l'Azerbaïdjan, vous allez où?
Après l'Azerbaïdjan, on arrive du coup en Iran. Et du coup, c'est là où on a un gros point d'interrogation sur la tête parce qu'on savait que c'était le moment tant attendu en fait de notre voyage, un des moments attendus parce que on avait beaucoup d'attentes sur ce pays, on avait entendu beaucoup de bien comme beaucoup de mal. Et on était impatient de rentrer pour se faire notre propre opinion.
Alors? Comment ça s'est passé, cette première approche?
Ben, on est arrivé sur. On était hyper méfiant au début, mais cette méfiance s'est très vite estompée parce qu'on a trouvé une culture extrêmement généreuse, chaleureuse, cultivée. C'est des gens très cultivés. Ils savent, pour beaucoup d'entre eux, ils savent parler anglais. Certains ont même appris le français. Et ils sont très ouverts sur l'Occident, ils aiment beaucoup l'Occident. Ils ont envie de tout faire pour que on se sente bien. Ils ont tellement peu de touristes que quand ils voient un touriste, ils veulent tout faire pour qu'on se sente bien et ils le font très bien. Ça commence au début par une petite invitation à boire le thé et puis après ça finit par être invité chez lui quoi. Et il y a même un mec, c'est la première fois de ma vie que je vis un truc pareil. On était en train de faire nos courses. Il y a un gars qui nous a proposé de payer pour nous, payer nos courses. Mais on l'a pas compris. On l'a dit, bah non, tu vas pas payer nos courses, c'est pas possible. Mais déjà l'idée, qui a l'idée de proposer à quelqu'un de payer ses courses? Je trouvais ça trop ouf.
Tu m'étonnes. Et sur le coup, t'as réagi comment? Enfin, ça s'est fait du coup? Il vous a vraiment payé les courses ou?
Ah non, non, on a refusé, mais on a apprécié. Après, on a marché un petit peu avec lui, on a parlé avec lui. On voyait que ça l'intéressait en fait d'échanger avec d'autres voyageurs, après, enfin avec des voyageurs. Parce qu'il y a quelque chose à comprendre sur l'Iran, c'est que pour eux, voyager, c'est quasi de l'ordre de l'impossible, à moins d'être dans une famille riche ou dans la politique. Tu peux pas sortir du pays et du coup dès qu'ils voient des voyageurs qui peuvent converser aussi avec eux, bah, ils sont contents parce que c'est leur façon de voyager à eux en fait.
Et du coup, vous êtes resté combien de temps du coup en Iran?
En Iran, on a exploité notre visa jusqu'au dernier jour. On est resté 1 mois. C'était vraiment le coup de cœur. C'était vraiment le gros coup de cœur de notre voyage. Enfin, un des coups de cœur, on va dire, parce que enfin, dans tous les pays, il y a quelque chose de bien à en tirer, hein, même en Azerbaïdjan, malgré tout. Et à Téhéran, en fait, on s'est fait une bande de potes. Et super attachants, des gens super attachants, des Français, des Iraniens, surtout des Iraniens, en fait. Et je t'avoue, quand je suis rentré en France, je pleurais, hein. Je pleurais, j'étais triste de quitter ces gens-là, qui étaient tellement touchants, tellement amicales. Et c'est la vraie amitié, tu vois. Bon, après, j'ai voyagé pas mal en Asie, et tu vois, la culture, elle est différente, parce que t'arrives jamais à savoir si les gens sont intéressés par toi ou par ce que tu représentes, donc un occidental qui a potentiellement plus d'argent que eux. Et du coup, ils sont portés sur ça aussi en Asie. Mais en Iran, tu sens qu'à 100% que la relation, elle est saine, il n'y a aucun doute.
D'accord. Alors, un mois en Iran, 15 jours en Azerbaïdjan. Au final, de Paris, entre guillemets, jusqu'à Téhéran, ça a duré 8 mois et combien de kilomètres?
7 500 km.
Ok, 7500 bornes dans les pattes, ça c'est bon. Mais pendant tout ce périple-là, est-ce qu'il y a des endroits où, à part l'Azerbaïdjan, où vous vous êtes dit, bon, c'est pas si ouf que ça, ou au contraire, vous pensiez que c'était pas, à part l'Iran, c'était pas dingue, puis au final, vous avez eu pas mal de bons souvenirs et un bon vécu sur place. Quels sont les endroits qui t'ont le plus marqué pendant ces 7500 km?
L'endroit qui m'a marqué très vite, c'était la Slovénie. Donc, c'est un tout petit pays qui est après l'Italie au début des Balkans. Et c'est très, très, très sauvage. Moi, j'adore la nature. Là-bas, ils appellent ça le petit Canada. En fait, ça ressemble un petit peu au Canada. C'est très montagneux. Tu as des forêts primaires même. Et il y a des ours qui vivent dans la nature. On est passé très, on n'a pas passé beaucoup de temps en Slovénie parce qu'au début on avait du mal à jauger combien de temps fallait rester, etc. Mais si ça serait à refaire, je serais resté beaucoup plus de temps en Slovénie. Et c'est un pays dans lequel j'ai vraiment envie de retourner, surtout que c'est vraiment pas loin de la France. Même en voiture, ça pourrait se faire. Après, en fait, avant d'arriver dans le pays, alors, en général, on n'avait aucune attente. Du coup, on était soit surpris dans le bon sens, soit dans le mauvais sens. En Géorgie, c'était neutre, c'est-à-dire que il y avait des trucs qui étaient, j'arrive même pas à expliquer en fait ce que je pouvais ressentir sur la Géorgie, mais c'est un pays dans lequel j'ai pas envie de rester longtemps non plus, tu vois. Un peu comme l'Azerbaïdjan, un peu moins pire que l'Azerbaïdjan, voilà, la Géorgie. Pourtant c'est joli, hein, au niveau des paysages et tout ça, mais c'est au niveau de la culture, avec les gens, j'ai pas forcément beaucoup de, il y a pas beaucoup de choses positives, quoi.
D'accord. Et quels sont les endroits les plus jolis que tu aies pu voir durant ces 7500 km? C'était dans quel pays au pluriel? Ou peut-être le seul, je sais pas. Le plus truc où tu t'es dit, t'as arrêté le vélo, enfin tu t'es posé, tu t'es dit, voilà, ouais, non mais là ce que je suis en train de voir, je prends une claque.
Alors, ouais. Alors, il y a un endroit où j'ai pris une bonne grosse claque. C'est une ville en Turquie qui s'appelle Cappadoce, une région. Et en fait, c'est un canyon, c'est un désert de canyon avec des constructions qui datent de plusieurs milliers d'années, je crois. C'est des gens qui avaient construit des grottes, en fait, dans ces canyons. Et c'est juste magnifique. Au coucher de soleil, non, au lever de soleil, tous les jours, ils font un lever de montgolfière. Et donc, tu vois le canyon plus les montgolfières, t'as l'impression que t'es dans un film, tu comprends pas ce qui t'arrive, quoi.
Mais effectivement, ouais, ça a l'air d'être un truc assez dingue. C'est vrai que, en plus de ça, quand on se balade sur Instagram, souvent on voit des photos avec beaucoup de montgolfières. Et à chaque fois qu'on regarde la localisation où ça défonce, c'est souvent en Turquie. Ils ont un délire avec les montgolfières. Ça donne des images incroyables, mais ça doit être fou à voir en vrai. Là-dessus, je t'envie.
Ils ont une grosse diversité de paysages, hein, en Turquie aussi, hein.
Ouais, ça c'est. Ben, après, il paraît que le pays, il est assez. Moi, j'y suis pas encore allé. Il paraît que le pays, même les gens là-bas, enfin, il y a une espèce de culture qui est beaucoup plus, ouais, friendly que ce qu'on pourrait croire avec ce qu'on pourrait entendre à droite à gauche. Au final, c'est un pays assez ouvert. dès que quelqu'un est passé dans ce pays-là, il s'est passé quelque chose de positif. Donc voilà, à part Enzo qui a eu des problèmes, je crois, sur la route où les mecs, enfin, ils conduisaient un petit peu bizarrement d'ailleurs. Toi, est-ce que t'as eu des moments sur ton vélo? Est-ce que vous avez eu des moments où ça a été chaud au niveau sécurité parce que les mecs roulaient n'importe comment?
En général, les gens font attention aux cyclistes partout dans le monde. Après, on a eu d'autres moments où on s'est mis un petit peu en péril. C'est très très tôt dans le voyage, quand on arrivait en Italie, en fait, on n'avait pas pigé que les panneaux verts, ça indiquait les autoroutes. Et du coup, on a pris l'autoroute à vélo sur une trentaine de kilomètres. Bon, heureusement, c'était de la descente, on pouvait aller assez vite, mais on se faisait doubler par des camions qui roulaient à 100 km/h dans les tunnels à moitié éclairés. Donc, on a eu le temps de voir notre vie défiler avant de se faire arrêter par la police. Finalement, la police nous a emmenés là où on voulait aller. Donc, ils ont été gentils. On a eu une petite amende au passage, mais bon, c'est normal. Puis voilà, ça s'est bien terminé, heureusement. Mais sinon, je t'avoue qu'on a eu chaud à ce moment-là.
Et pour en revenir avec les problèmes que vous avez rencontrés au niveau des passages de douane, comment ça s'est passé? Parce que t'expliques, tu l'as pas dit au tout début que t'avais un drone, ou je m'en souviens pas, tu l'as dit tout à l'heure. Comment ça s'est passé autre part qu'à l'Azerbaïdjan avec le drone ou avec vos affaires, etc. Comment ça s'est passé les passages de douane?
Alors, partout en Europe, on peut circuler librement. Des fois, tu as des petits contrôles dans les Balkans. Il n'y a rien de bien méchant, il faut y regarder ton passeport. En Turquie, pareil, on peut y aller, il n'y a pas de visa à préparer. En Géorgie aussi. Donc, à chaque fois, c'est un bureau, ils te prennent ton passeport, ils te fouillent à moitié. Mais plus tu sors de l'Europe, plus tu vas loin, plus les fouilles sont importantes. Qu'est-ce qu'on a? Oui. On va dire l'endroit le plus compliqué d'accès, c'est l'Iran. Parce qu'en fait, si tu veux aller en Iran, là, il te faut un visa. Pour avoir le visa, il faut contacter une agence de tourisme spécialisée dans la faisabilité des visas, en fait. Et eux, ils vont faire l'intermédiaire entre toi et puis l'administration iranienne pour l'obtention de ton visa. Donc, tu as plein de documents à fournir. Et puis, tu as aussi un questionnaire à répondre. Ils veulent savoir où est-ce que tu vas dormir. Toutes les nuits, ils veulent savoir où est-ce que tu seras, en fait. Mais nous, on a bluffé, on a rencontré un truc à la con. De toute façon, après, il n'y a personne qui va vérifier si tu es bien dans l'hôtel que tu avais dit 3 mois avant, quoi. Donc, il faut prévoir un bon mois et demi pour obtenir son visa iranien. Donc, c'est beaucoup de procédures. Mais sinon, après, quand il y est, c'est bon, c'est le gros kiff, quoi. Sinon, ça n'a jamais été très très compliqué hein, de passer d'un pays à l'autre en général, hein, que ce soit ici ou même ailleurs dans le monde. On va dire qu'on a le bon passeport, hein, qu'on a le passeport français. Pour nous, c'est vraiment très très facile. Et ça, ceux qui n'ont pas voyagé, ils peuvent pas s'en rendre compte, mais vraiment, on a vraiment une chance énorme d'être né en France avec notre passeport. On a le passeport universel, quoi.
C'est sûr que c'est un passeport qui permet d'ouvrir quand même quasiment toutes les portes, si ce n'est toutes. Contrairement à pas mal de personnes, il y a quelques années, quand j'étais en Indonésie, il y avait un Indonésien qui racontait que pour lui, voyager, c'était quasiment impossible. Il fallait que c'était des procédures, enfin c'était des refus sur refus. Nous, en France, on est quand même très bien lotis par rapport à tout ça. Par rapport à Parce que moi, il faut toujours qu'à un moment donné, on parle un peu de nourriture. Est-ce qu'il y a un pays où tu as le mieux mangé? Parce qu'en fait, vu que tu parles de popote, de machin et tout, et à un moment, tu me parles de resto, j'imagine qu'en Turquie, si vous êtes allé au resto, c'est que ça devait être pas mal. Est-ce qu'il y a un endroit, ou plusieurs endroits, où vraiment tu t'es dit là, la nourriture, franchement, elle est démonte, quoi. Elle est excellente.
Là, on parle pas d'Asie, on parle que de mon voyage à vélo.
Pour l'instant, on parle que du voyage à vélo, oui.
Ok. Sinon, le choix, il serait vite fait. Non, alors.
T'aurais dit quoi? Vas-y, t'aurais dit quoi en Asie?
Ah, la Thaïlande.
On est d'accord, on est d'accord.
Ouais. Et sinon, la Turquie, très bonne découverte. Parce que c'est de la nourriture qui est saine. À chaque fois qu'on va te préparer à manger, il y aura toujours plein de crudités, il y aura un petit peu de riz, il y aura de la viande. Mais les légumes font partie importante de la gastronomie turque. Et puis, ils ont pas mal de plats très différents. Ils n'ont pas le kebab. Ils ont vraiment une gastronomie très développée. Donc, j'ai bien aimé. Puis, j'étais souvent surpris de découvrir. J'aime beaucoup être surpris par de nouvelles choses. Et la Turquie, bah, c'était un enchaînement de ça, en fait, niveau alimentation. Voilà, surtout la Turquie, l'Iran aussi, pas trop mal. Turquie-Iran.
D'accord. C'est vrai qu'en Turquie, il paraît qu'au niveau de la street food, il y a énormément de choses qu'on ne connaît pas et qui valent le détour. Donc ouais, ça me donne vachement envie d'aller tester. Et au niveau du dodo, parce que moi je vais revenir vite fait dessus quand même, parce que tu dis, on a fait du camping sauvage au début. En plus, la phrase que tu as sortie tout à l'heure, c'est on mangeait du Lidl. Et on faisait du camping sauvage. Moi, là, il y a un truc, il faut que je comprenne comment, toi qui n'avais pas voyagé beaucoup avant et qui n'avais pas fait beaucoup de camping sauvage, comment vous faisiez pour trouver un spot pour dormir en Europe occidentale avec vos tentes?
Ah ça s'est fait sur une succession d'échecs, hein, comme tout apprentissage. Tu apprends de par tes erreurs et finalement on a appris très vite. Donc ce qui faisait que la technique qu'on avait trouvée, c'est que quand on était à peu près aux trois quarts de notre journée de vélo, on regardait la carte. Ou même la veille, hein, dans tous les cas, il fallait qu'on s'organise pour arriver à un endroit nature, donc proche de l'eau. On repérait souvent un lac ou une rivière. Et du coup, on visait ça. Parce que l'accès à l'eau, c'est important quand même. On pouvait, si on avait un lac, on pouvait potentiellement prendre une petite douchette, on pouvait faire la vaisselle pour boire, non, c'est moyen. Mais dans tous les cas, l'eau, c'est hyper important. Et donc, l'accès à l'eau, c'était une de nos priorités. Ensuite, après, on développait d'autres stratégies. On demandait aux gens si ils pouvaient pas nous prêter un bout de jardin pour mettre nos tentes. Et souvent, bah, on avait un petit peu plus qu'un bout de jardin. Des fois, les gens nous invitaient même à manger. Mais après, on n'était pas du tout dans l'optique grattage. Hein. Soit ça se faisait naturellement, soit ça se faisait pas, mais on forçait pas du tout le truc. Mais du coup, le fait d'avoir un petit jardin, déjà, on pouvait avoir un accès à l'eau. Là, tu peux demander l'électricité, c'est bon. Personne ne va te refuser ça. On a même une nuit, on a dormi dans une tente Décathlon. Parce que. Une tente d'un magasin de Décathlon, hein, sur le parking du magasin. Parce qu'en fait, ça, c'était une erreur qu'on avait faite. C'est que quand on arrive le soir dans une ville, t'es buté, ça marche pas. Il faut que la fin de la journée, là où tu arrives à ton spot de bivouac, faut absolument ne pas être dans une ville. Donc les villes, faut vite les traverser pour être tranquille le soir. Et là, bah, du coup, on a fait cette erreur-là. On était en pleine nuit dans une ville. On a trouvé les tentes Décathlon, on avait la flemme d'installer notre bivouac et tout. En plus, les tentes étaient grandes, du coup, on a pu tout mettre à l'intérieur, vélo, sacoche et tout, et puis s'installer direct.
Ça, c'est
Voilà.
assez insolite, je vais pas te mentir. Mais tu mets le doigt sur un point qui est intéressant, c'est l'hygiène. Parce que moi, voilà, je pars à vélo, en plus de ça, tu pars pendant plusieurs semaines, etc. Tu as un budget limité. Est-ce qu'il y a des moments où, au niveau de l'hygiène, ça a été un peu précaire, où vous avez eu du mal à trouver des points d'eau, où vous avez eu du mal à vous laver, etc.
Le problème de l'hygiène est arrivé très tard parce que passé en Azerbaïdjan, en fait, parce que c'était compliqué de trouver de l'eau. On était dans une sorte de petit désert. Sinon, alors Stéphane comme moi, nous on a grandi dans un confort comme tout le monde, hein, et on a été habitué à une douche par jour. Et c'était vraiment le point sur lequel j'avais un petit peu peur, je t'avoue, parce que moi c'est vraiment important, surtout après une journée de vélo, j'ai pas envie de dormir avec ma sueur et tout. Donc on avait une petite douche nomade, un petit sac. Donc on le remplissait d'eau à côté du point d'eau qu'on avait. Et puis on prenait notre douche dans la nature. Hein. Et puis des fois on avait appris au bout d'un moment parce que on n'avait pas tout le temps accès à l'eau, à prendre une douche avec une gourde, genre 1 litre d'eau, mais sans savon, sans rien. Déjà juste une douche avec une gourde pour retirer ta sueur, tu te sens déjà très 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 bien. Mais sinon, on a réussi à prendre des douches quasi, quasi tous les jours. Hein.
À part en Azerbaïdjan, du coup, où ça a été un peu plus compliqué.
À part en Azerbaïdjan. Et puis après, on parle beaucoup de bivouac, mais faut pas oublier qu'on n'a pas fait que ça. Hein. On s'arrêtait quand même dans toutes les grandes villes ou toutes les capitales. On prenait des Airbnb pendant une semaine à 2 semaines, voire 3 mois, comme on l'a fait à Istanbul. Mais sinon, voilà, c'était le temps vraiment de se régénérer, nous. D'avoir une bonne alimentation, de recharger tous nos appareils, de réparer tout ce qu'il y avait à réparer, voilà.
Et au niveau du budget sur les 3 mois à Istanbul, ça représente combien à peu près la nuit là-bas dans un Airbnb?
Ben, déjà, on avait été hébergé quand même 2 mois gratuitement. Après, on participait à l'alimentation. Mais sinon, Au niveau du Airbnb, partout, hein, dès que tu quittes la France, dès que tu quittes l'Europe de l'Ouest, on va dire, ou les gros pays occidentaux, pour 10-15 balles, allez, entre 10 et 20 euros, tu trouves quelque chose.
Ah oui, effectivement, les prix sont pas les mêmes. C'est intéressant parce que du coup, pour quelqu'un qui a un fort projet d'aller dans ces pays-là, peu importe le moyen, de se rendre compte que pour une dizaine d'euros ou une vingtaine d'euros, tu peux avoir un Airbnb. Si en plus de ça, vous êtes plusieurs, ça divise quand même pas mal les coûts. C'est intéressant de s'en rendre compte, quoi. C'est bien. Et puis effectivement, pour l'hygiène et puis pour recharger les batteries, parce que mine de rien, de dormir en bivouac, ça génère un stress parce que tu sais pas si tu vas être dérangé dans la nuit. T'as pas forcément un sommeil qui est très réparateur tout le temps. Là, au moins, t'es plus tranquille et tu peux profiter. Et tout à l'heure, t'as dit, quand t'étais à Téhéran et qu'il fallait repartir, que tu l'avais plutôt mal vécu, que ça t'avait rendu assez triste. Le retour, vous l'avez fait comment? Vous l'avez fait en avion?
On l'a fait en avion, ouais.
D'accord. Et pourquoi vous avez décidé d'arrêter le voyage à Téhéran, puisque tu me disais que vous partiez à durée indéterminée direction l'Est et que vous auriez pu rejoindre l'Asie. Qu'est-ce qui a fait que le voyage se termine à Téhéran?
Il y a pas mal de facteurs qui sont rentrés en compte. Déjà, on ne savait plus trop au niveau itinéraire ce qu'on devait faire, parce qu'il y avait l'hiver qui arrivait. Et du coup, tous les pays en stand, ça devenait compliqué niveau climat à ce moment-là. Donc après, il nous restait toujours la possibilité de traverser l'Iran, puis après prendre le bateau jusqu'au l'Inde. Mais même l'Inde, on n'arrivait pas à se visualiser en Inde à vélo. La culture, la pollution là-bas, je pense que ça aurait été vraiment très galère. Et l'idée de notre voyage, c'était quand même de se faire kiffer. On voulait pas se faire. On voulait sortir de nos zones de confort, mais pas au stade à vraiment détester le voyage. Je pense qu'en Inde, ça aurait été quand même très compliqué. Je peux peut-être me tromper. Alors, il y avait ça. Le deuxième facteur, c'était que Noël approchait et on se disait pourquoi pas rentrer en France et faire la surprise à nos proches. Et ça concordait énormément au niveau date. Donc c'est ce qui s'est passé, hein. De toute façon, on est rentré, on a fait la surprise à notre famille. On a débarqué le soir du réveillon. Personne n'était au courant de notre petit stratagème. Et puis, il y avait deux autres points, c'est que notre entente, finalement, c'est un peu perdu, c'est un peu dégradé dans le temps avec Stéphane. C'est compliqué, hein, de voyager très longtemps avec une même personne, d'être 24 heures sur 24 avec une même personne. Même si c'est mon pote d'enfance et qu'on s'entend hyper bien, bah, ça reste compliqué. Et on avait envie de voir autre chose. Et puis voilà, c'était ça principalement.
Oui, bah effectivement, c'est sûr qu'après 8 mois, c'est sûr que pendant les 8 mois, l'entente n'a pas dû être toujours au beau fixe, ce qui est logique, puisque bah, il y a des moments où il y a la fatigue, il y a des contre-coups, il y a des contre-temps, il y a beaucoup de choses qui peuvent se passer. Mais déjà, oui, c'est sûr que d'avoir partagé cette expérience-là ensemble pendant 8 mois, à 7 500 km ensemble sur les routes, H24 ensemble, jusqu'à Téhéran, déjà, ça montre déjà que l'amitié était solide parce qu'il y en a, je pense que dès le début, ça aurait pu vriller et au bout de quelques jours ou semaines, ça aurait pu déjà être la fin de l'aventure. Je voudrais voir avec toi, du coup, quand tu es rentré en France, tu es resté combien de temps avant de repartir? Parce que tu es reparti et puis tu as eu encore pas mal de projets derrière.
Alors en fait, ouais, quand je suis rentré en France, je suis resté 3 mois, il me semble. Je suis resté 3 mois en France. En fait, dès que je suis arrivé en France, de toute façon, je le savais déjà que ma place n'était plus là. Ma place était en voyage. Bah, je sais pas pour combien de temps, mais dans tous les cas, je devais continuer de voyager. Et moi, mon rêve, en fait, depuis toujours, c'est d'explorer les pays d'Asie. Donc l'Asie de l'Est, le Japon, enfin tous les pays vraiment. Tout à l'est, quoi. Et je me suis dit, bah, pourquoi je ferais pas ça, en fait, au lieu de repousser ce moment-là, ce rêve que j'ai. En plus, je commençais à être forgé niveau voyage. Je pense pas que ça va être un gros problème de partir voyager tout seul après tout ce qu'on a vécu. Donc, je suis parti après ces 3 mois en Malaisie. Donc, c'est là où a commencé mon grand voyage en Asie du Sud-Est. Donc là, ça fait pratiquement un an et demi, 2 ans que j'explore tous ces endroits-là.
Et que du coup, tu les explores, mais il y a eu un projet qui est né de cette exploration. Est-ce que tu peux nous en parler?
En fait, bah déjà, à ce moment-là, avec Stéphane, on a arrêté notre première chaîne YouTube qui était Cyclonomade, parce qu'on a créé chacun notre chaîne séparément. Psychonomade, c'était nous deux. On ne pouvait pas se permettre de continuer sur Psychonomade. Donc moi, j'ai créé ma chaîne Phonomade et Stéphane, une autre chaîne. Finalement, il a arrêté les vidéos. Mais donc j'ai continué sur ma chaîne. Et Enzo, avec qui j'avais tissé des liens d'amitié déjà auparavant. Donc, on est reparti, on s'est recroisé en Asie et on a décidé de construire une boutique ensemble. Ça faisait plusieurs mois qu'on en parlait parce que quand on voyage, des fois, on trouve des produits de ouf et qu'il n'y a pas en France. Et on voulait en gros en faire profiter notre communauté. Et du coup, dès qu'on voyait des produits qui nous convenaient, qui convenaient à notre valeur, donc que ça soit fait dans des bonnes conditions, artisanaux, etc., ben on essayait de capturer toutes ces informations, d'en faire peut-être même des petits documentaires, des reportages, et puis envoyer tous ces produits-là en France et les revendre dans la boutique de Géotrappeur. Donc là, j'arrive plus à, ouais, ça fait à peu près depuis janvier, février qu'on a créé notre boutique. Et puis voilà, c'est un travail qui avance petit à petit. Là, normalement, dans pas longtemps, on va recevoir du poivre de compote, de l'huile de coco. Sinon, actuellement, on a du thé qu'on est parti chercher tout au nord du Laos dans un périple à scooter avec des milliards de galères. Je pense que c'est ça que tu avais en tête quand tu m'as posé la question. Et puis voilà, ça avance tranquillement, quoi.
Bon, très bien, c'est sûr que le projet du coup a dû être stoppé par le Covid. Comment toi tu l'as vécu parce que tu étais là-bas toi pendant qu'il y a eu le pic de l'épidémie? Comment ça s'est passé pour toi?
C'est ça. Bah, en fait, avec Enzo, on voyageait en Asie, mais pas aux mêmes endroits. Mais on s'est recroisés, on s'est vu au Laos. Puis après, l'idée, c'était je le rejoigne au Vietnam. Donc, je suis allé au Vietnam. J'étais en février là-bas. Et l'idée, à ce moment-là, on se disait, viens, on se chauffe, on achète des vélos, on traverse le Vietnam à vélo et on va à la recherche des meilleurs cafés du pays. Et là, on était, je sais pas, le projet, il nous convenait, on était bien. Mais là, il y a eu cette histoire de Covid. Et là, les frontières ont commencé à fermer les unes après les autres en Asie. Et là, on s'est dit, bon, là, il faut choisir le pays dans lequel on veut rester. Enzo, lui, commençait à être un petit peu lège niveau thune. Du coup, là, il est parti en Australie pour travailler, pour se refaire financièrement. Et moi, quelques mois auparavant, j'avais découvert une île qui s'appelle Koh Chang en Thaïlande. Mais j'ai pas eu le temps de bien l'explorer, mais j'ai adoré cet endroit-là. Et je me suis dit, je veux pas passer mon confinement au Vietnam, je veux aller là-bas à Koh Chang. Donc du coup, je suis reparti parce qu'en fait, moi, je suis en scooter. Hein, je voyage en scooter en Asie du Sud-Est, un scooter que j'ai acheté en Thaïlande. Et donc je suis retourné, j'ai retraversé le Cambodge et puis je suis allé sur ma petite île à Koh Chang et j'ai passé 3 mois à Koh Chang sur une petite île paradisiaque et j'avais beaucoup d'empathie pour tous les Français qui étaient entre quatre murs à attendre qu'on leur ouvre leurs portes et alors que moi j'étais sur des îles, sur des plages paradisiaques, j'avais limite honte pour te dire.
J'avoue qu'on n'a pas vécu le même confinement parce que c'est clair que nous on était enfermés alors que toi t'étais enfermé sur une île, excuse-nous. Mais du coup ouais, là j'avoue que ça, bah, on n'a pas vécu la même chose, mais t'as quand même fini par rentrer. Qu'est-ce qui a fait que t'es rentré en France? Est-ce que c'est à la fin de ton visa? Est-ce qu'il y a eu des choses qui ont fait que ça s'est fait comme ça? Raconte-nous.
Non, en fait, comme l'été dernier, je suis rentré aussi. J'avais passé une année en Asie, je suis rentré l'été parce que j'ai envie de voir ma famille aussi. Donc en gros, c'est comme si je pars en vacances en France et je vis en Asie. Enfin maintenant, je le vois un petit peu comme ça. Donc voilà, l'histoire de passer un petit peu de temps avec mes proches, mais après je repars. Hein. Ça c'est, j'ai aucun doute là-dessus.
C'est quoi tes projets pour la
Mes
suite?
projets par la suite. Alors, bah là en ce moment, je suis en train de refaire toute la boutique Géotrappeur. Le branding, le design, les prix. On a diminué les prix parce que c'était un petit peu cher au début. On avait beaucoup de retours négatifs. J'aimerais faire un film sur mon voyage à vélo parce que là, du coup, tout est éparpillé sur ma chaîne. Enfin, il y a les 30 épisodes sur ma chaîne, mais j'aimerais en créer un film. Donc, j'ai déjà commencé, hein, à écrire le scénario, le script, tout ça. Et puis continuer à développer d'autres activités en ligne pour dégager des revenus complémentaires, pas tout miser sur le même panier parce que là on parle de ma vie médiatique, mais à côté j'ai une vie d'entrepreneur web. Par exemple, là je me suis mis il y a pas longtemps à faire du trading de crypto-monnaie. Je crée des boutiques aussi pour des prestataires. Je vends des microservices et je vends des photos. Enfin, voilà, j'essaie de me diversifier un petit peu parce que il faut aussi gagner de l'argent. Enfin, il faut surtout gagner de l'argent pour avoir le train de vie que j'ai actuel. C'est un petit peu le nerf de la guerre, hein.
Et tu disais tout à l'heure, tu as créé aussi une formation pour les personnes qui souhaitent voyager à vélo. Est-ce que tu peux nous en parler un peu plus de cette formation?
Ben comme j'ai passé plusieurs mois à préparer mon voyage à vélo, je me suis dit autant construire quelque chose qui puisse mâcher le travail et faire gagner beaucoup de temps en fait. Parce que en fait, quand on achète une formation, c'est surtout ça, hein, on achète du temps parce qu'on peut tout apprendre de par soi-même. Moi, j'ai réussi à préparer mon voyage à vélo par moi-même, c'est juste que ça m'a pris des mois. Alors que là, j'ai synthétisé en 5 heures tout ce qu'il faut savoir et l'anticipation aussi de tous les problèmes qui peuvent intervenir sur la route, apprendre aussi à atteindre l'autosuffisance financière, l'autosuffisance avec la nature. Donc pas mal d'autres notions pour aider toutes les personnes à entreprendre un voyage à vélo. Après, j'ai créé d'autres formations, mais après, moi, je suis pas très bon en promotion. C'est peut-être un truc que je dois développer. Mais dans tous les cas, j'ai créé une formation pour aider aussi les gens à financer leur voyage. C'est-à-dire quelles sources de revenus ils peuvent exploiter en plus de leur salaire pour dégager des revenus complémentaires et que ça soit simple et à la portée de tout le monde, comment dépenser moins aussi. Enfin voilà, tout l'aspect financier, comment construire son capital de 10-15 000 euros le plus rapidement possible pour partir à vélo.
Ok, très bien. Bah, s'il y a des personnes qui s'intéressent, dans tous les cas, je mettrai le lien dans la description. Entre le Florian qui partait de Paris et celui qui revenait de Téhéran, comment il a changé? Est-ce qu'il a changé au niveau de ses valeurs? Est-ce qu'il y a des choses qui se sont inscrites en lui durant ces 8 mois qui ont fait qu'il n'est plus la même personne? Comment toi, t'as perçu cette évolution en 8 mois et 7 500 km? Et j'ai même envie de rajouter, ensuite, est-ce que ça a continué de renforcer des choses quand t'es reparti en Asie? C'est quoi la différence entre celui qui était en biologie, qui a tout quitté, et celui d'aujourd'hui?
Alors, c'est vraiment une question qui est très très vaste et on pourrait en parler des heures et des heures, mais je vais essayer de synthétiser autour d'une seule idée. C'est que quand on vit dans un cadre fermé, comme on le fait tous en vivant dans notre petite société française, eh ben, on se rend compte que le monde, on va dire, c'est un petit cercle de connaissances qui sont évidentes et acquises et ancrées dans notre cerveau. Et en fait, dès que tu commences à partir à l'étranger, bah, en fait, tu te rends compte que ce cercle, bah, en fait, il y a plein d'autres cercles comme ça. Et ça élargit ton champ des possibilités, ça élargit ta créativité, ça élargit la limite de l'humain, ça élargit tellement de choses dans ton cerveau. Par exemple, pour répondre à une même problématique, bah, les peuples ont mis en place des solutions différentes. Un exemple, pour rejoindre deux ponts de terre, bah, il faut un pont. Bah, il y en a, ils ont mis d'autres stratégies en place. Ils ont mis des bateaux qui ont différentes formes, différentes structures, mais qui tout ça répond à la même problématique. Et tu te rends compte que depuis que t'es petit, on t'a dit, bah, ça, tu vois, ça, c'est une assiette. Une assiette, c'est plate, c'est ronde. Et c'est comme ça, une assiette, c'est comme ça. Et tu te rends compte qu'en fait, bah, il existe plein d'autres formes d'assiettes, plein d'autres couleurs, plein d'autres. Mais tout répond au même besoin, à la même problématique. Et en fait, ça élargit beaucoup de. Je sais pas comment être clair sur ça, mais ça élargit ton champ des possibilités mentales, physiques, psychologiques, tout. Tu te rends compte qu'on a appris très. Qu'on connaît très très peu de choses sur notre monde et qu'en fait il y a vraiment beaucoup de choses à savoir, beaucoup de choses à apprendre et à s'inspirer d'autres personnes.
Il n'y a pas qu'une seule façon de faire, en gros. Et en plus de ça, est-ce que toi, parce que là, tu parles de l'ouverture d'esprit que ça a fait, ça a généré, mais est-ce que ça a aussi changé des choses en toi? Au-delà de, peut-être, je sais pas, peut-être un aspect peut-être un peu plus débrouillard, aventurier, qui va vers l'autre, parce que tu parlais d'être introverti à la base, mais quand tu voyages à vélo ou en Asie, enfin bref, quand tu voyages beaucoup, t'es obligé d'être en contact avec les gens, de sortir de ta zone de confort. Est-ce que t'as ressenti déjà une mutation pendant toute cette aventure?
Mais clairement, en fait, je suis devenu mon Florian 2.0, si tu veux. C'est-à-dire que je suis devenu ce que j'aimerais devenir. Et quand tu pars, quand tu vis tout ça, tu vis tellement de choses que tu vis plus au travers le jugement des autres, tu vis à travers toi et t'as plus aucun frein dans l'évolution de ta personne, de ta personnalité, et tu deviens en fait la personne que t'as envie de devenir. Donc ouais, comme tu dis, forcément, je suis devenu plus extraverti, plus créatif, plus aventurier, moins peureux. Moi, j'ai plus peur de rien. Enfin, ça peut paraître très orgueilleux de raconter ça, mais par exemple, là, quand je me balade dans la rue et que il y a quelqu'un qui veut s'embrouiller, mais j'ai plus peur de, genre, si ça doit mener au combat, j'ai aucune crainte. Je dis, bah, vas-y, frappe-moi, je m'en fous. En fait,
T'as confiance en toi, quoi.
je sais pas comment. Ouais, j'ai confiance en moi, mais dans une moindre mesure, tu vois. Je suis pas non plus en train d'exposer de confiance en moi, il y avait une phrase. Ah, je vais la retrouver. Je suis sûr de moi, même si je n'ai pas confiance en moi.
C'est de qui ça?
C'est moi?
Mais comment tu peux être sûr de toi si t'as pas confiance en toi? Là, on va rentrer dans un débat, ça va durer une plombe. Non, mais en tout cas, oui, je vois ce que tu veux dire. Mais c'est bien parce que du coup, le voyage, et ça, c'est pour les personnes qui écoutent et qui ont peur de voyager, qui ont peur d'aller dans certains coins du monde parce que elles ont envie d'y aller, mais elles ont un peu d'appréhension vis-à-vis d'elles-mêmes. Tu vois, c'est pas forcément vis-à-vis des autres, c'est vis-à-vis de comment elles réagiraient vis-à-vis de certaines situations. L'idée de peut-être de manquer de quelque chose, de devoir demander des services, d'avoir un rapport avec l'autre. Le voyage, ça reste quand même la meilleure école, en fait, pour plein de choses, pour l'ouverture d'esprit, pour se rendre compte, comme tu le disais, qu'il n'y a pas qu'une seule façon de faire, mais qu'il y a beaucoup d'autres façons de faire et que tout est bon à prendre pour arriver à ses fins. Du coup, je rebondis sur une question que je pose dans tous les podcasts et ta réponse m'intéresse beaucoup. Pour toi, c'est quoi la définition de la liberté?
En fait, je pense qu'on a tous une définition différente de la liberté. La liberté, c'est lié au bonheur. Dans quel cadre tu vas être heureux? Là, je parlais, moi, d'avoir quitté le salariat, d'avoir quitté mon appartement et tout ça. Mais il y a des gens à qui ça convient absolument. Ils vont être contents dans leur vie. Et le voyage ne convient pas à tout le monde aussi. Chacun a sa propre vision de la liberté. Moi, ma liberté, je suis peut-être extrêmement exigeant, mais en gros, c'est la liberté financière et géographique, principalement, et puis de pas avoir quelqu'un au-dessus de moi qui me dit quoi faire. De la liberté, c'est-à-dire de me lever à l'heure que je veux, en fait, et de me lever où j'ai envie. Bon, après, je suis encore en train de me battre, hein, pour avoir cette liberté. Elle n'est pas acquise à 100%, on va dire, pour le long terme, mais dans tous les cas, ça fait 2 ans que je l'ai. Et voilà, c'est un petit peu ça ma notion de la liberté.
Très bien. Quel conseil tu donnerais à quelqu'un qui veut faire la même chose que toi, à savoir, on va rester déjà sur le côté vélo. Quel conseil tu donnerais à quelqu'un qui voudrait faire le même périple?
Alors, le conseil que je donnerais, ça serait de le faire. Non, mais en vrai, ça peut paraître simple comme réponse, mais ce que je veux dire par là, c'est que il y a beaucoup de gens, moi y compris, hein, avant, on s'imagine que les choses vont tomber du ciel. On se dit, un jour je ferai ça, un jour je ferai ci. Mais en fait, il se passera rien du tout si on prend pas la décision et si on passe pas à l'action par soi-même. Personne ne t'aidera, personne ne le fera à ta place. Il y a que toi, en fait, qui peut mettre les choses en place. Donc, passer de la personne passive rêveuse à la personne qui rentre dans l'action et qui commence à établir un protocole, c'est-à-dire, je veux partir à vélo, ok, où est-ce que je veux aller, combien ça coûte, quand est-ce que je pars, commencer à répondre à des vraies questions qui sont solides et qui sont palpables, et pas juste un rêve, une idée, quelque chose de concret.
Bon, bah, au moins, ça c'est clair. Donc, puis ça, c'est bien pour avoir confiance en soi. C'est typiquement, tu veux faire un truc, fais-le. Et en fait, c'est une bonne façon de... C'est un bon conseil, puisque Et au final, chacun fait son propre chemin. Où est-ce qu'on peut te suivre? Sur quel réseau?
Alors, je suis plutôt actif sur YouTube et sur Instagram, donc avec mon compte Flow Nomade. Voilà.
Je mettrai les liens. Et du coup, sur YouTube, tu sors des vidéos régulièrement. Raconte-nous un peu.
Alors, une fois par semaine, mais depuis que je suis rentré en France, en fait, quand je suis en France, j'ai moins envie de faire des vidéos, même si j'ai des dizaines et des dizaines d'idées. Mais j'essaye au minimum une par semaine.
Très bien. Bah, écoutez, moi, je vous recommande de suivre Florian parce que ses vidéos elles sont très chouettes. En plus de ça, il explique bien. C'est des vlogs qui sont intéressants, qui sont construits. C'est pas un peu du n'importe quoi comme d'autres peuvent le faire sur au final c'est juste divertissant. Là c'est pas que du divertissement, c'est vraiment aussi voilà, il explique bien ce qui se passe, les situations, et quand on voyage et qu'on a envie de se rendre compte, qu'on a envie de prendre le pouls de certains endroits, ben en fait c'est intéressant d'avoir son retour puisque c'est assez clair, puis en plus de ça c'est récurrent. Donc franchement, allez-y, vous allez passer un super moment. En tout cas, moi, Florian, j'ai passé un très bon moment avec toi. Je te remercie d'avoir pris le temps de répondre à toutes mes questions. Ça me donne envie, en plus de ça, de prendre un vélo. Je te cache pas qu'en ce moment, plus ça va, plus j'ai envie de prendre un vélo et d'aller explorer des coins. Et là, je me dis, là, dans quelques temps, bon, j'irai peut-être pas jusqu'à Téhéran, je prendrai peut-être pas 8 mois de mon temps. Mais en tout cas, pardon ?
Je te prête mon vélo si tu veux.
Bah écoute, si tu le ramènes à Bordeaux, il y a pas de problème. Non, je rigole, mais voilà, c'est-à-dire que ouais, ça donne vachement envie de d'explorer et de prendre le temps. Et ça, c'est vraiment intéressant. Et c'est quelque chose sur lequel j'insiste de plus en plus à chaque fois dans les podcasts, c'est de prendre le temps de découvrir les choses. Peut-être de moins voir dans le sens d'aller à l'autre bout du monde en avion, de prendre des avions sur place et d'aller à droite à gauche pour voir les places à voir absolument. Peut-être moins de choses comme ça, mais prendre plus le temps de rester à un endroit et d'observer ce qui s'y passe. Et c'est vrai que des moyens comme l'autostop ou comme le vélo ou des moyens où au final on voyage lentement, c'est des super moyens. En tout cas, pour ça, je te remercie d'avoir pris le temps de répondre à toutes mes questions.
Merci à toi, Bastien. Et pareil, j'ai passé un très bon moment. Là, je viens de voir qu'on a passé quasi une heure et demie. Et je les ai même pas vus. Je les ai même pas vus passer.
Tu vois ça? On était à fond dedans. Bah, en tout cas, je te remercie. On va continuer de suivre tes aventures et pourquoi pas un prochain épisode dans quelques temps pour que tu nous racontes tes diverses péripéties.
Ça marche. Merci à toi.
Et c'est ainsi que ce 10e épisode de Courant Libre se termine. J'espère que le voyage de Florian ainsi que son mode de vie vous aura inspiré. Si vous envisagez un voyage à vélo, je vous recommande d'aller voir ses vidéos sur sa chaîne Cyclonomade. Vous verrez, c'est super sympa, il a fait vraiment les choses très bien. On s'accroche vraiment à son aventure. En tout cas, je tiens à vous remercier d'être toujours plus nombreuses et nombreux à suivre ce podcast. Quant à moi, je vous dis à dans un mois, dans un prochain épisode. Ciao !